Imaginez un instant l'univers comme un gigantesque distributeur automatique.
Un distributeur cosmique, en quelque sorte.
Ouais, exactement ça. On insère une bonne action dans la fente, on appuie sur le bouton et paf, une récompense tombe.
La santé, un mariage heureux, une promotion.
C'est hyper rassurant comme concept, en fait. Mais quand la machine se met soudainement à cracher du malheur, genre une tragédie inattendue ou une perte terrible,
Le premier réflexe, c'est de chercher l'erreur.
bah oui, le réflexe presque inconscient, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai bien pu insérer comme mauvaise action pour mériter un désastre pareil?
C'est une réaction très humaine. Le cerveau a une aversion, mais alors viscérale, pour tout ce qui est aléatoire.
Ouais, on déteste le chaos, quoi.
Exactement. Face au chaos, notre psychologie cherche frénétiquement à établir un lien de cause à effet. On veut vivre dans un monde où les actions produisent des conséquences mesurables.
Et ce besoin de justice immédiate, c'est vraiment la fondation de notre plongée d'aujourd'hui. On va s'appuyer sur les notes de la 7e session du cours du docteur John Walton sur le livre de Job.
Une source fascinante, d'ailleurs.
Grave. Le but, c'est de comprendre pourquoi l'humanité s'acharne à justifier les actions divines quand la souffrance frappe. Bon, décortiquons tout ça. Le docteur Walton utilise un terme spécifique pour cette idée de distributeur automatique, non?
Tout à fait. Il appelle ça le principe de rétribution. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ce principe était vraiment universel dans le Proche-Orient ancien.
C'était pas juste un truc de philosophe, alors?
Ah non, pas du tout. C'était la lentille à travers laquelle toute la société voyait la réalité. En gros, les justes, ceux qui sont fidèles, prospéreront. Et les méchants attireront inévitablement le désastre.
Chacun reçoit ce qu'il mérite. Mais du coup, la logique inversée de ce truc est terrifiante.
Ah bah c'est le cœur du problème, hein.
Parce que si on voit quelqu'un réussir, on se dit « Ah, il a le cœur pur ». Mais si quelqu'un souffre, on en déduit quoi?
Qu'il a inséré une mauvaise pièce dans la machine, qu'il cache une faute morale.
Et c'est là que le texte biblique intervient avec une critique féroce via un personnage appelé le provocateur, ou l'accusateur selon les traductions.
Celui qui vient observer Job, c'est ça?
Ouais. Il observe la piété de Job et pose une question qui détruit tout. Il demande « Est-ce que Job sert Dieu pour rien ?»
Waouh, c'est hyper cynique mais tellement pertinent. Le provocateur souligne que le principe de rétribution crée un conflit d'intérêts énorme.
Parce que si chaque bonne action rapporte gros, l'altruisme n'existe plus.
Exactement, on ne fait plus le bien pour le bien, on agit comme un investisseur sur le marché de la morale. On attend son retour sur investissement, la véritable justice est détruite.
Mais Job réplique un truc intéressant face à ça. Il dit en substance que si la machine ne donne plus les récompenses proportionnellement aux actes, bah c'est la justice du gérant de la machine qui est suspecte.
C'est imparable comme argument. Si quelqu'un de droit finit écrasé par la tragédie et que les corrompus s'enrichissent, la justice de Dieu n'a plus aucun sens.
Ce qui nous amène à une impasse totale. Et pour visualiser cette paralysie, le docteur Walton propose une image mentale géniale, le triangle des revendications.
J'adore ce modèle, il rend les choses tellement claires.
Ouais. Alors, imaginons un triangle géométrique tout simple. À la base, on a deux coins. En bas à gauche, c'est notre fameux principe de rétribution, le distributeur automatique.
D'accord.
En bas à droite, c'est la justice de Job, son innocence, le fait qu'il soit quelqu'un de bien. Et tout au sommet du triangle, qui surplombe le tout, c'est la justice de Dieu.
Donc, tant que Job prospère, la géométrie est parfaite, le triangle tient bon.
Dieu est juste en haut, Job est innocent en bas, et le principe de rétribution fait le lien. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Quand la tragédie frappe,
paf, Job perd tout, ses enfants, sa santé, sa fortune, en un éclair. Et là, les mathématiques s'effondrent, en fait.
Bah oui, parce qu'on ne peut garder que deux des trois coins.
C'est ça. Quelque chose doit céder. Et c'est fou d'observer comment les amis de Job, tu sais, Eliphaz, Bildad et Tsophar, gèrent cette crise.
Eux, ils refusent catégoriquement d'abandonner le principe de rétribution. C'est leur forteresse.
C'est leur bouée de sauvetage psychologique, ouais. Sans ce principe, le monde devient terrifiant.
Du coup, pour garder le principe de rétribution en bas à gauche et la justice de Dieu au sommet,
ils doivent effacer le coin de Job.
Exactement. La conclusion est brutale. Job doit être secrètement mauvais. Il doit cacher des péchés horribles.
Il se transforme en inquisiteur, en fait. Et Job, de son côté, il fait quoi? Parce qu'il sait qu'il est innocent.
Job campe sur sa propre justice, il garde le coin en bas à droite. Le problème tragique, c'est que lui aussi est coincé dans cette mentalité de rétribution, il garde donc le coin en bas à gauche.
Ah, donc s'il garde la base du triangle...
Il est forcé d'abandonner le sommet, il commence à douter de la justice de Dieu. Il devient super sceptique, voire accusateur.
c'est une impasse psychologique terrible. Et c'est là qu'intervient ce quatrième personnage, Eliou.
Oui, Eliou arrive plus tard dans le récit pour essayer de débloquer la situation.
Moi, j'ai l'impression qu'Eliou, c'est un peu ce juriste hyper astucieux qui trouve une faille minuscule dans un contrat pour gagner un procès impossible.
C'est une super analogie. Et si nous relions cela à une perspective plus large, on voit qu'Eliou essaye de se placer au sommet du triangle. Il veut sauver la justice de Dieu et le principe de rétribution, mais il va tricher un peu.
Tricher, hein? Comment ça?
Il va redéfinir le principe. Au lieu de dire que la souffrance est curative, genre une punition pour un péché passé, il dit qu'elle est préventive.
Attends, préventive?
Ouais. Il ne cherche pas dans le passé de Job, il pointe son comportement présent, son auto-justification, son orgueil qui commence à pointer depuis qu'il souffre. Eliou dit en gros, cette souffrance t'empêche de devenir arrogant.
Ouais, enfin, c'est pas un peu de la triche intellectuelle, ça?
Tu trouves?
Bah, changer la définition des mots juste quand ta théorie ne marche plus, c'est facile. C'est comme frapper quelqu'un et quand il se met en colère, tu dis « Ah bah, regardez comme il est agressif, il méritait bien d'être frappé ».
C'est une critique tout à fait valide et les notes de Walton le soulignent. Même si Eliou est le plus proche de la vérité parmi les amis, il reste obstinément prisonnier de ce satané distributeur automatique. Il veut à tout prix une explication immédiate.
Ce qui amène une distinction super importante dans les sources entre deux concepts, la théologie et la théodicée.
Oui, il faut vraiment les séparer pour comprendre le reste de la Bible.
C'est quoi la différence? Sans utiliser de jargon de prof d'université.
La théologie, c'est ce qui nous dit qui est Dieu, ses attributs. La théodicée, c'est la tentative humaine, souvent ratée, d'expliquer mécaniquement pourquoi on souffre.
D'accord. Donc le principe de rétribution, c'est une très mauvaise théodicée.
Absolument. Alors comment le reste de la Bible gère cette tension? Les psaumes de lamentation, par exemple, utilisent souvent une autre dimension, le temps.
Ah ouais, l'échelle de l'éternité.
C'est ça. Le monde semble totalement injuste maintenant, dans le présent. Mais sur l'échelle de l'éternité, la justice finira par prévaloir.
Ça introduit une notion cruciale abordée par le docteur Walton, l'idée de l'ordre contre le non-ordre.
C'est fondamental. Nous vivons dans un monde de non-ordre, un monde déchu.
Mais pourquoi? Je veux dire, si Dieu est juste, pourquoi il n'impose pas une justice immédiate et parfaite tout de suite?
Parce que si la justice divine parfaite s'abattait instantanément sur chaque action humaine, dans ce monde imparfait, aucun être humain ne survivrait.
Ah ouais, tolérance zéro, le moindre mensonge et paf, la foudre.
Exactement. L'application immédiate de l'ordre serait fatale pour nous. La justice n'est qu'un attribut de Dieu qui fonctionne dans une constellation complexe avec... l'amour, la miséricorde, la sagesse.
C'est fascinant. Mais du coup, comment on doit interpréter des textes bibliques comme les proverbes? Parce que là-dedans, c'est plein de phrases qui disent « Fais le bien et tu seras riche et en bonne santé ». Ça ressemble grave au principe de rétribution, non?
Ça y ressemble, mais c'est là qu'il faut faire attention. Le docteur Walton clarifie que le principe de rétribution dans les proverbes est proverbial.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est souvent vrai dans la vie. Si tu es intègre et travailleur, en général, ça se passe mieux que si tu es malhonnête. Mais ce n'est pas une promesse absolue, ce n'est pas une garantie universelle.
C'est une tendance, quoi. Pas un contrat d'assurance contre les tuiles de Lévi.
Voilà. Prendre un proverbe pour une garantie contractuelle, c'est l'erreur fatale de la théodicée.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Comment on sort de ce besoin obsédant de trouver un coupable? Parce que même dans le Nouveau Testament, on voit ce réflexe.
Ah oui, Jésus est confronté au principe de rétribution à plusieurs reprises. L'exemple de l'aveugle né dans l'évangile de Jean est frappant.
Ouais. Les disciples arrivent et demandent, en gros, qui a péché? Lui ou ses parents? Ils cherchent la pièce défectueuse dans la machine.
Ils veulent la cause. Ils regardent vers le passé et la réponse de Jésus casse complètement ce cadre. Il refuse de valider la cause. Il dit, ce n'est ni lui, ni ses parents.
Il coupe le lien entre souffrance et culpabilité.
Totalement. Et il pointe vers le but, l'avenir. Il dit que c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée.
C'est un basculement radical, en fait, de la cause vers le but.
Et cela soulève une question importante. Pourquoi on s'acharne à chercher des causes? On voit la même chose avec l'histoire de la tour de Siloé dans l'évangile de Luc.
Ah oui, la tour qui s'effondre sur 18 personnes. L'accident tragique par excellence.
Les gens pensaient que ces victimes devaient être de pires pécheurs que les autres pour mériter ça.
Le fameux karma immédiat.
Mais Jésus refuse ça catégoriquement. Il utilise l'événement comme un avertissement général. cassant cette logique de la correspondance un pour un entre le péché et la tragédie.
La tour est tombée parce que c'est un monde de non-ordre. Point barre.
Exactement. Jésus, tout comme la conclusion du livre de Job, nous invite à cesser de chercher la cause dans le passé. Il faut faire confiance à la sagesse de Dieu et chercher le but.
Et franchement, savoir ça, je trouve que c'est une libération énorme pour quiconque traverse une période sombre aujourd'hui.
Une vraie bouffée d'oxygène, oui.
Parce qu'il n'y a pas besoin de s'épuiser à faire un audit de tout son passé à chaque fois qu'une tuile nous tombe sur la tête.
C'est clair. On rajoute tellement de culpabilité inutile à la douleur.
Le monde n'est pas un système de comptabilité cosmique super strict. Et en fait, d'après tout ce qu'on vient de voir, cette absence de distributeur automatique, c'est une vraie miséricorde.
C'est ce qui nous garde en vie, oui.
Et ça m'amène à une réflexion, un peu vertigineuse, basée sur ses sources. Si le docteur Walton a raison, et qu'on ne survivrait pas une seconde dans un monde de justice immédiate, alors peut-être que l'injustice apparente de ce monde, ce fameux non-ordre qui nous fait parfois tant souffrir, c'est paradoxalement le seul espace possible pour que des choses comme la grâce, la compassion et surtout le libre arbitre puissent exister.
Oh, c'est une pensée fascinante.
Bah oui, imagine. Sans ce flou dans le principe de rétribution, si chaque bonne action était payée en cash et chaque mauvaise punie par la foudre, on serait juste des petits robots.
Des automates conditionnés par la peur du châtiment immédiat.
Exactement. Incapables d'aimer librement. Incapables de choisir le bien juste pour la beauté du bien. Ce non-ordre, même s'il est douloureux, c'est ce qui rend notre humanité et notre liberté possible. C'est quand même un truc de fou à méditer.